Isabelle Diego de Santis est un drag king, une personne qui surperforme le genre pour le questionner. Si les drag queens souvent plus connues performent le genre féminin, les drag kings, eux, se jouent des codes masculins. Un art perturbateur et joyeux de la scène et de la rue qu'elle apportera jusqu'en Suisse. Un art indispensable pour une personne qui commencera son militantisme à travers ACT UP et la lutte contre le sida.
Pour moi, c'est vraiment une dimension de liberté puis de résistance, oui. Parce qu'en fait, déconstruire les injonctions sociales, notamment faites aux femmes sociales, c'est un long chemin. Et c'est ça que j'aime avec le drag king, c'est-à-dire qu'en fait, on va incorporer les savoirs. Vraiment, ça va être quelque chose de très physique et très mental, bien sûr, tout est relié.
Elles ont façonné notre paysage militant roman.
Ils ont été activistes,
des petites mains, des acteurs politiques régionaux.
Tous se sont battus pour un monde plus solidaire, inclusif, anticapitaliste, parfois il y a plusieurs décennies.
Et elles font partie des militantes d'une autre génération.
Notre vieille garde.
Je viens de Lille, dans le nord de la France, et il y a 31 ans, j'avais 20 ans, et j'étais à ACT UP Lille. Et pour moi, c'était une lutte vitale, indispensable, c'était vraiment ce qui me tenait. Plus jeune, vers 13-14 ans, j'avais perdu des amis, du VIH-Sida, d'overdose, et puis vraiment, c'est cette forme d'action, de mobilisation du corps, de crier sa colère, sa rage, c'était vraiment quelque chose qui était très prégnant dans ma vie.
Paris, juin 1989. Lors du défilé de la Gay Pride, plusieurs séropositifs font un die-in. Ils s'allongent en même temps dans la rue pour mimer la mort. Ils appartiennent à la nouvelle antenne d'ACT UP. Signe distinctif, ils arborent le même t-shirt noir sur lequel est écrit « Silence égale mort ».
Avec ACT UP, Isabelle apprend à être en rue, à prendre la place dans un espace pas si public que cela.
Après coup, je me rends compte que moi j'étais sociabilisée en tant que jeune fille, jeune femme, et à ACT UP, on se retrouve en fait à agir, à faire des scandales, à crier, à utiliser notre corps comme bouclier, à s'accrocher sur des portes d'institutions, des choses que j'avais pas du tout apprises et qui m'étaient plutôt même interdites, on va dire, dans le registre d'être en rue, d'être socialement en lien avec les autres. Et donc déjà, c'était quelque chose où j'ai beaucoup en fait appris à faire autrement que ce qu'on m'avait appris. C'était donc des moments où j'ai pu apprendre d'autres aussi, puisque j'ai pu apprendre aussi ces techniques d'ACT UP, cette façon de penser, les rapports de domination, cette façon de dire que ce qui se fait pas avec nous se fait contre nous. Donc tout cet héritage des années 80, la lutte contre le sida, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Comme mes mortes et mes morts font partie aussi de ma vie encore aujourd'hui. Prendre en fait des espaces où on n'était pas les bienvenus, où en fait ça se faisait contre nous. Et donc effectivement c'est un apprentissage où effectivement on déploie de la force. Aujourd'hui on va parler d'empouvoirment, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre en fait. Même si je... Être une femme dans l'espace public dans les années 90, c'est j'avais, on va dire, un autre look, mais je pouvais effectivement subir de harcèlement de rue. C'est un espace qui était déjà très très genré. Et là, en fait, je pouvais vivre autrement cette rue avec d'autres, au-delà de nos genres assignés. Et ça, c'était vraiment un grand moment de liberté.
Étudiante, Isabelle se rend régulièrement à Paris pour militer. Alors que ses amis vont faire la fête le soir, elle préfère traîner dans les librairies de la communauté LGBT. C'est là qu'elle fera une rencontre qui change tout.
Je découvre un livre qui me touche beaucoup. Il est très coloré et on voit en fait une personne qui a une posture très masculine. Et puis le titre, c'est « The Drag King Book ». Et je suis interpellée, je me dis « qu'est-ce que c'est ?» J'ai jamais entendu parler de drag king. Et je feuillette cet ouvrage et tout de suite, je me dis « mais là, il se passe quelque chose ». Donc je me l'offre. Et puis, depuis, je le partage. Pour moi, c'est vraiment un livre très, très puissant. En fait, c'est deux drag kings qui décident de documenter la scène drag king aux États-Unis et un peu à Londres, avec leurs moyens, et qui, en fait, nous offre une magnifique archive et une visibilité d'une histoire Et moi, j'avais déjà vu des travestis, j'avais vu des personnes qui se jouaient des genres féminins, mais j'avais jamais vu des gens se jouer des codes et des injonctions masculines. Et donc, pour moi, c'est vraiment, ça a été une ouverture vers des possibles. Et donc, ça, c'était en 1999. Et je vais devoir attendre un petit peu, 2004, pour participer à mon premier atelier de Reiki.
Ce fameux premier atelier, Isabelle va pouvoir le faire lors d'un voyage à Bruxelles, où elle se rend régulièrement, notamment pour la Pride, car proche de l'île où elle réside.
Je vois que dans la programmation, il y a programmé un atelier de Reiki, et puis je me dis, mais tiens, depuis le temps. Et donc je décide d'y aller.
Et puis aussi, on a des merveilleuses pousses King, parce qu'il faut savoir...
Et j'ai la chance de rencontrer des gens extraordinaires, des activistes bruxelloises et bruxellois passionnés, très attentionnés, puis une artiste, une chorégraphe allemande, qui transmet voilà, sa passion pour cet art de la scène. Et je me retrouve à me poser des questions que je ne me suis jamais posées. Quelle moustache, quelle barbe je voudrais, qu'est-ce que je voudrais incarner comme masculinité. Et donc, voilà, bien accompagnée, soutenue, avec des personnes qui sont déjà en tenue. Moi, j'ai rien pris, j'ai pas pris de vêtements spécifiques. Mais on fait ce voyage, et je me rends compte qu'il se passe beaucoup de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout de le faire ensemble et s'offrir un moment de liberté.
Mais ce n'est pas la première fois qu'Isabelle joue avec le genre. Avant Diego, elle avait appris à performer le genre féminin avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, un collectif très présent lors des Prides qui lutte contre l'homophobie et le sida d'une manière peu orthodoxe.
C'est un mouvement qui vient de San Francisco, qui est né en 79, des gays, des folles radicales, et donc ils se jouaient des genres et donc ils incarnaient des bonnes sœurs. Et je trouvais vraiment leur action importante, mais je me voyais pas du tout me travestir, me travloter, devenir une bonne sœur. Non, je voulais prendre soin d'elle parce qu'elle faisait beaucoup d'actions en rue, eh bien, quand on est de genre féminin, il peut se passer malheureusement beaucoup de violence. Quand on est des gays et qu'on se joue des genres et des codes, on peut aussi malheureusement subir de la violence. Donc j'étais plutôt à vouloir les protéger, être dans cette attention. Et puis elles m'ont convaincue, et c'est vrai que je pense que je me suis toujours considérée de genre fluide. Et je pense que je suis lesbienne, mais mon rapport au genre me permet par mon militantisme effectivement de pouvoir œuvrer avec différentes identités et de se jouer aussi des injonctions et de pouvoir me créer des espaces de lutte, mais aussi des espaces de partage.
Dès le début, Isabelle veut partager cet art. Elle veut que d'autres vivent la même liberté.
Pendant cette soirée, cet atelier à Bruxelles, pendant ce festival, des amis ont pris des photos. Je vais faire une exposition. Comme ça, ce sera plus parlant que quand j'essaie d'en parler autour de moi, même si j'ai l'énergie, l'envie, la niaque. Je me dis, allez, avec des photos, ça donnera envie. Et donc, je fais une exposition. Ça me permet aussi, moi, d'essayer de mieux comprendre ce voyage que j'ai pu faire, ce que j'ai pu y trouver.
Quand même, il y a des personnes pour qui c'est leur première fois sur scène, donc vraiment merci à nous de les applaudir.
Mais cette liberté, comme souvent, est aussi accompagnée de craintes.
Et puis, il y a des personnes intéressées, puis aussi des lesbiennes qui comprennent pas trop, qui surtout aussi sont inquiètes en fait de se jouer des genres. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Parce que quand même, il y a tout un vocabulaire d'insultes lesbophobes qui est autour en fait du genre masculin en fait. Et donc la camionneuse, la grosse butch, etc. Donc c'est quelque chose qui voilà, les interpelle, mais de façon assez négative, est-ce que je peux comprendre.
La persévérance paye. Isabelle peut organiser son premier atelier. Et pour elle, c'est tout de suite clair. Elle ne veut pas être le meilleur des drag kings. Elle veut offrir la possibilité aux autres de vivre le drag en sécurité.
Et puis je vais trouver en fait des personnes qui ont envie, et notamment des étudiantes qui vont créer un festival hétérocyclage, j'adore ce nom. Et elles sont en études de genre, et elles se disent, ben oui, on a entendu parler du drag king, on sait pas trop ce que c'est, etc. Et donc, je vais faire mon premier atelier avec une jeune artiste que j'ai rencontrée, et on va co-animer notre premier atelier. Et c'est super parce que là vient des personnes très très différentes, des femmes hétérosexuelles, des femmes bisexuelles, des femmes qui ont 40 ans, d'autres qui ont 20 ans, des femmes lesbiennes qui ont 35, bref, vraiment une belle diversité de personnes. Et on fait ce voyage ensemble et ensuite on va performer sur scène. Et ça a été un moment fort parce que c'est vraiment la première fois où sur l'île je vais pouvoir performer sur une scène avec d'autres. Et je me rends compte que tout de suite, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ces compétitions, c'est pas être le plus beau drag king, c'est faire que les kings qui vont venir sur scène, en fait, se sentent en sécurité.
Mais revenons au début, à l'atelier de Bruxelles, où a lieu la naissance du King d'Isabelle. Car dès le début, Isabelle Diego vit son art avec son héritage militant et son habitude de trouver le genre et la rue.
Puis il y a une femme, en fait, je l'ai vue plusieurs fois dans des bars à Bruxelles, qui me plaît, que j'ai envie de draguer, que je ne sais pas draguer. Bon, et là je me dis, c'est le moment ou jamais, il faut y aller. Et puis, en fait, je décide de faire l'atelier. Et puis, je vois bien qu'elle est troublée, qu'elle fait pas l'atelier, qu'elle reste dans l'espace du bar. Mais on va sortir toutes les deux en rue après l'atelier. Et moi, je décide, en fait, de garder ma moustache de drag king. Et je décide, en fait, de pas passer la soirée et la nuit avec elle, mais plutôt, en fait, de rester, en fait, avec cette identité que je suis en train de découvrir. Mais on décide quand même de faire quelques pas à deux dans la rue, dans la nuit. Et en fait, je me rends compte que ça crée un trouble, en fait. Les personnes qui nous croisent, surtout les femmes, en fait, qui nous observent autrement que les hommes. Et je me dis, il se passe quelque chose. Je crois que j'aime vraiment créer ce trouble, en fait. Et ce goût-là, en fait, c'est une autre façon de vivre ce que j'ai pu vivre à ACT UP ou avec les sœurs. Et j'aime en fait cet aspect-là. Et donc je vais pouvoir le partager avec d'autres kings en rue. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens ne nous identifient de loin comme des hommes, puisqu'on va avoir des tenues, on va avoir une façon de marcher, on va avoir une façon de se tenir en rue. Et puis, plus on va approcher, il y a des personnes qui vont pas du tout se rendre compte, en fait, puisque on peut être des drag kings qui peuvent être vraiment, on va dire, un peu comme monsieur tout le monde. On va pas être en tenue de scène, pailletée, etc. Et dans ce côté d'être dans des masculinités, on va dire, classiques dans les conventions sociales, il y a des personnes quand même qui font se dire, il se passe quelque chose. Et puis d'autres pas du tout. Et c'est ça que, en fait, c'est comment on vit cette rue en étant avec tous les privilèges, en fait, qui nous sont pas donnés. Et comment on se joue, en fait, de ces privilèges. Et comment, en fait, aussi, on va pouvoir aussi faire que cette rue soit un peu différente. Parce qu'effectivement, on n'aura pas les mêmes comportements, ou alors on s'amusera entre nous d'avoir certains comportements, mais on ne les fera pas subir à d'autres. En tout cas, moi, c'est dans ma démarche de ne pas faire subir à d'autres. Et certaines, peut-être, masculinités toxiques. Je suis un bon garçon, je gère mes
émotions, mais quand on te l'impression... Troublé, sans faire subir la violence du genre, se jouer de celui-ci et donc apprendre à le connaître, Isabelle Diego découvre un univers dans lequel il gagne en liberté.
Il y a vraiment des choix, que ce soit des choix esthétiques, des choix d'accessoires, des choix vraiment de langage corporel. Il y a plein de masculinité. Donc effectivement, c'est aussi peut-être envoyer tous ces possibles, parce que parfois malheureusement, dans certains quartiers, dans certaines époques, à certaines heures de la nuit et du jour, il y a peut-être plutôt certaines masculinités qui sont présentes plus que d'autres. Et donc c'est effectivement ce qui me goûte, c'est plutôt la dimension de liberté, en fait. C'est-à-dire que un homme va se comporter différemment avec un autre homme que s'il se comporte avec une femme socialement, j'entends par des codes sociaux. Donc effectivement, c'est de de parfois montrer à une personne que, ben oui, on est rentré peut-être dans une forme d'intimité qu'on n'aurait pas eu la même si cette personne m'avait identifié dans un féminin social, on va dire, dans ces sociétés hétéropatriarcales, et que, ben en fait, ben oui, si on mettait tous ensemble et tous ensemble à bas cet hétéropatriarcat, ben en fait, il y aurait plus de liberté, quel que soit notre genre et notre orientation sexuelle. Et donc, je pense que c'est aussi, oui, peut-être un peu proposer ça.
Et ce qu'il y a de beau dans cette liberté proposée, c'est qu'elle appelle toujours plus de liberté.
Ce qui est extraordinaire, en fait, dans le dragging, c'est qu'il y a plein de personnes très différentes qui pratiquent et qui pratiquent de plein de façons. Donc, il y a des personnes, moi, il y a 20 ans, on faisait des ateliers ensemble, on pouvait aller sur scène ensemble, et les personnes étaient dans une construction identitaire de personnes transgenres. Aujourd'hui, 20 ans après, j'ai des personnes, hein, des jeunes hommes qui viennent à mes ateliers et qui sont des personnes transgenres et qui en fait viennent encore apprendre autre chose. Alors qu'il y a 20 ans, c'était un peu le début de leur parcours dans leur transition. Donc en fait, on vient vivre plein de choses très différentes dans le dragging, selon nos besoins, nos envies, selon aussi le contexte de lutte, le contexte artistique aussi.
Isabelle Diego souligne que le drag est aussi politique, car si l'on doit gagner en liberté, c'est bien que quelque chose nous enferme et qu'il faut le combattre.
Pour moi, c'est vraiment une dimension de liberté, puis de résistance, oui, parce qu'en fait, déconstruire les injonctions sociales, notamment faites aux femmes sociales, c'est un long chemin. Et c'est ça que j'aime avec le dragging, c'est-à-dire qu'en fait, on va incorporer des savoirs. Vraiment, ça va être quelque chose de très physique et de très mental. Bien sûr, tout est relié. Donc oui, il y a vraiment de ça. Et puis c'est aussi s'autoriser à pouvoir vivre des identités. C'est vrai que c'est ça qui est passionnant, et en fait parfois on se rend compte que c'est encore difficile d'être lesbienne aujourd'hui, ça peut être difficile même si on a pu s'affirmer à un moment dans sa vie, de se rendre compte que en fait on peut être très vite rattrapé par des injonctions familiaux, des injonctions sociétales, alors qu'on pense qu'on est, voilà, en tant que féministe, on est totalement libéré de tout ça, mais en fait c'est très très ancré. Donc pour moi c'est un outil, une ressource, un oasis où se ressourcer pour justement pouvoir soit se rendre compte que tout est effectivement performance, on a beau le savoir, mais c'est bien de le vivre, et puis c'est aussi bien parfois d'aller explorer encore d'autres chemins. Parce qu'effectivement, par exemple, il y a des personnes, il y a des lesbiennes qui vont venir à des ateliers de dragging et qui effectivement vont venir avec une recherche de ce qui peut être un côté un peu icône dans la culture lesbienne, et puis d'autres qui vont dire non, moi j'ai envie peut-être d'incarner une mauvaise image entre guillemets qui est pas forcément valorisée dans nos groupes, et donc ça, je trouve ça aussi tout est intéressant et passionnant. Et puis des femmes hétérosexuelles qui effectivement se rendent compte que elles vont faire apparaître des masculinités, parfois un ex, un frère, et que tout est très très troublant en fait, effectivement.
Pour Isabelle Diego, si le dragging est aussi une forme de lutte, celui-ci n'a pas comme principal moteur la colère ou la tristesse.
Je pense qu'il y avait l'un des moteurs, c'est la joie. Je pense que moi, je reviens quand même de territoires très sombres. J'ai pensé à me suicider parce que pour moi, c'était pas possible d'avoir survécu à tous mes amis morts. C'était vraiment c'était très sombre. Ma vie était très sombre de mes 15 à mes 28 ans. Et puis les choses se sont éclairées, et le dragging a fait partie de ces moments très lumineux et de joie, et aussi de pouvoir justement être dans le combat, mais avec de l'humour, ce que j'avais déjà commencé à vivre avec les Sœurs de la Perpétuelle Urgence, avec une dimension de de malice, une dimension peut-être aussi de l'enfance. Moi, j'ai peu joué pour différentes raisons. Et donc, en fait, j'ai pu me connecter aussi à des parties de mon enfance où, pour voir, aller voir... j'adore le cirque et pouvoir aller voir des spectacles de cirque. Il y avait des concours de déguisement et donc, en me déguisant, je pouvais accéder à des moments que j'adorais. Et puis, donc en fait, ça m'a reconnecté à tous ces plaisirs aussi de l'enfance, ces moments de liberté et de joie. Et en même temps, d'avoir pleinement conscience de cette liberté arrachée, en fait.
Cette joie militante est contagieuse et motivante. Elle attire, elle fascine, et comme le souhaite Isabelle Diego, son art se répand.
Après ce premier atelier, en fait, tous les participantes et participants, alors je vais dire au masculin, puisqu'on était des drag kings, en fait, on va se retrouver. On va faire une pride ensemble, les étudiantes hétérosexuelles vont venir dans notre centre LGBT, nous on va aller quand elles donnent des conférences dans d'autres lieux de la ville. Et en fait, ça tisse plein de moments ensemble. Et de là aussi, on est visible, donc des personnes viennent nous voir en disant « Ah bon, je savais pas, qu'est-ce que c'est, vous faites quoi ?» Ah bon, du drag-in, ok. Donc ça crée du dialogue, ça crée de l'intérêt. Et en fait, d'autres groupes, des groupes féministes, des groupes de lutte contre le sida, des groupes pour les droits des personnes LGBT, commencent à se dire « Pourquoi pas inviter, proposer un atelier à nos militantes ?» Et donc je me retrouve en fait à aller dans plein d'univers. Et ça c'est vraiment extraordinaire, mais je le fais aussi avec les sœurs de la perpétuelle indulgence. Donc en fait, aussi en tant que sœur, je vais être une sœur, donc mon nom de sœur, c'est Sœur Salem de la Langue Ardente, gardienne des passions et protectrice des drag kings. Et mon visage est maquillé de blanc avec des couleurs, des paillettes, des fossiles, et j'ai une demi-moustache qui est peinte. Et en fait, quand je parle avec les personnes, je leur parle de drag king, en fait. Donc, ça amène plein de discussions. C'est vraiment des moments super. Mais petit à petit, je partage avec des personnes qui connaissaient pas et qui ont envie de connaître. Et puis après, petit à petit aussi, il va arriver d'autres médiums. Et puis, on arrive à presque aujourd'hui. Mais 20 ans plus tard, c'est l'explosion.
Mais Isabelle Diego ne se voile pas la face. Son art n'est pas compris et accepté par tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à être troublés.
Ce que je peux en comprendre, parce que c'est pas toujours simple de pouvoir discuter, d'oser s'exprimer de part et d'autre quand on n'est pas forcément d'accord, quand on comprend pas, etc. Mais je pense que le genre, en fait, est une question complexe, individuellement et collectivement. Et que je pense que observer des personnes qui troublent les autres, qui se troublent par rapport au code des masculinités, ça peut donner envie, ça peut donner aussi peur d'avoir cette envie, en se demandant qu'est-ce que c'est que cette envie, où est-ce que ça va nous amener cette envie. Donc c'est vrai que être troublé par rapport à son identité, ça peut amener des inquiétudes, ça peut amener du rejet, ça peut, et ça on le connaît bien, nous les personnes LGBTQI, quand on est face à des personnes qui en fait, c'est leur propre inquiétude en fait, qui les anime, leur propre peur, leur propre haine d'elles-mêmes aussi, et d'eux-mêmes surtout. Et donc je pense qu'il se joue beaucoup quand on voit quelqu'un en fait s'affranchir, quand on voit quelqu'un s'affranchir des injonctions, quelqu'un se libérer, ça nous renvoie à nos propres peurs, à nos propres impossibilités, à plein de choses. Bon, je pense qu'il y a un peu de ça.
Et bien qu'ils performent le genre masculin, les drag kings sont tout de même souvent des personnes assignées au genre féminin, avec toutes les difficultés que cela implique.
Surtout, ce qui se joue, c'est des rapports de domination qu'on connaît bien, et aussi de domination économique, en fait. c'est que les drag queens à l'époque, il y en a pas tant que ça, il y en a quelques-unes, elles ont quelques espaces dans certains bars, en tout cas à Lille, elles ont quelques espaces, et en fait, on voit bien que les lesbiennes et les femmes ont pas forcément les mêmes espaces, voire elles n'ont pas d'espace social pour peut-être aussi pouvoir explorer, créer, etc. Qui peut être libre par rapport à d'autres? Est-ce qu'on peut partager les libertés? Puis je crois que c'est des méconnaissances, et puis je crois que c'est aussi de la misogynie en action. Tout simplement, il y a de la misogynie chez les gays, il y a de la misogynie aussi chez les femmes, malheureusement, mais en tout cas chez les gays, il y en a. Donc effectivement, il y a effectivement des drag queens qui à l'époque étaient misogynes, donc qui étaient aussi dans la compréhension, puis d'autres qui comprenaient. Moi, mes sœurs, j'aurais parlé du drag king, elles m'ont dit « Ah bon, ah, c'est ça, ok, bon bah tiens, tu nous inviteras ». Bon, mais c'était aussi, c'était pas leur tasse de thé, comme on dit. C'était, c'est un truc de lesbienne, c'est un truc de femme. Bon, nous, on va. Pourquoi? En fait, elles pensaient pas qu'elles pourraient avoir du plaisir. Et en fait, quand elles sont venues regarder, découvrir, elles ont dit, ouais, c'est super, mais en fait, hyper chiadé, tel costume. Donc, c'est des représentations, c'est des manques d'intérêt. Bref, des choses très classiques, en fait.
Pour Isabelle Diego, militer de manière entière, complète, présente, en rue, ce n'est pas que dans l'intellect, mais aussi avec le corps. Le drag king fait partie, entre autres, des manières de le mettre immédiatement en lutte.
Moi, je suis également formatrice en autodéfense féministe. On a peu d'outils où, en fait, on va mobiliser notre corps dans les espaces féministes. Il y a l'autodéfense, il peut y avoir la danse, il y a les manifestations, qui peuvent parfois être aussi des lieux de spectacles de rue, pour pouvoir raconter nos luttes, pour pouvoir raconter nos idées et ce qu'on soutient et nos solidarités. Et donc je pense que effectivement, c'est on va vivre et partager quelque chose de corporel. Et ça, je crois que c'est très puissant. Et des personnes le savent, en fait. Et donc c'est aussi et puis c'est de l'art, et puis c'est comme tout art, c'est aussi attirant, en fait. Je veux dire, de se dire, mais tiens, comment est fait ce trompe-l'œil, mais comment est fait cette perspective? Il y a des personnes qui sont curieuses, en fait, soit de savoir comment on fait, soit curieuses de vous continuer de regarder ces perspectives. Et je crois que c'est ça aussi qui touche dans le drag king, c'est que ça va être effectivement des perspectives et où on sait où on va mobiliser notre corps et on va s'étonner. Et aussi, on suppose, on se dit, il va se passer des choses. On ne sait pas trop quoi, mais il va se passer des choses. Et ça serait peut-être bien qu'il se passe des choses.
Voyage pour promouvoir son art dans toute l'Europe. Il participera à développer en Suisse l'art du kink.
Un jour dans le Nord, j'ai rencontré Catherine Gaillard. Et Catherine Gaillard, c'est une Française, mais qui vit en Suisse depuis très longtemps, et qui en fait est lesbienne, qui a participé avec d'autres à créer l'Estime, le groupe de lesbiens de Genève. Et en fait, je vais la découvrir en tant qu'artiste. C'est une conteuse professionnelle, et je vais écouter son spectacle sur les Amazones. Et là, je suis... Waouh, c'est extraordinaire. Et puis je lui dis, mais waouh, tu voudrais bien revenir, voudrais t'inviter. Et donc on l'invite à Lille, notre centre LGBT, et elle raconte un récit des Amazones d'hier et d'aujourd'hui, seule sur scène. On voit vraiment les combats, mais on voit aussi une pride s'organiser, bref. Et puis elle m'invite, et donc je viens à l'Estime, je viens en tant que sœur, avec des sœurs, donc je dis je vais venir avec des garçons, mais oui, viens. Et donc je me prépare, on se prépare, nous nous préparons pour la Pride à l'Estime. Et en fait, là, je connecte avec des super militantes. Vraiment, c'est un moment de sororité très puissant. Et puis, je rentre, je noue des liens d'amitié avec d'autres militantes et je les invite l'année d'après à venir participer à un de mes ateliers drag king à Lyon. Et vraiment, elles ont adoré. Et elles se sont mobilisées et elles ont, en 2013, organisé le premier atelier drag king que j'ai animé à l'Estime. Et ça a été un super moment. Et de là, en fait, j'animais à peu près 6-7 ateliers à Genève avec l'Estime, puis après avec d'autres collectifs, puis après à Lausanne. Et c'est vrai que ça a été un sacré moment, ce premier atelier drag king 2013 à l'Estime.
En Suisse, comme dans le monde, le drag king prend bien et se développe. À travers des films, des émissions télé, des spectacles, des ateliers, la liberté est partagée au plus grand nombre. Et fait de plus en plus de nouveaux kings. Et plus cet art se répand, plus il se diversifie.
C'est un art aussi qui s'hybride beaucoup, comme tous les arts. Donc là, je ne sais pas à Genève, mais dans d'autres villes, il y a aussi des drag kings qui vont être en proximité avec des sortes de, un peu des clowns d'aujourd'hui. Donc ça, c'est assez étonnant. Ils vont se jouer des codes des clowns du cirque. Il y en a qui vont vers du drag fuck, c'est-à-dire qu'on va au-delà des genres, on est au-delà du queen et du king, on est vraiment dans des créatures, voilà, qui se jouent des genres. Donc il y a des drags qui vont justement être gays et faire du drag king. Alors je sais pas à Genève, en tout cas j'en vois à Lyon. Donc il y a peut-être encore quand même, j'espère, des liens entre toutes ces villes. Et puis là, moi, je pense que je vais revenir avec des jeunes drag kings avec qui je performe, et surtout dont je suis fan, qui sont des jeunes drag kings racisés. Et ça, vraiment, je crois que c'est vraiment important de les voir, de les entendre. Donc j'espère qu'on va pouvoir être ensemble à l'usine. Donc oui, il y a des espaces dans la ville, entre l'usine, des bars, des boîtes, et puis aussi des performances pendant les prides.
Pour Isabelle Diego, le drag king n'est pas qu'un art de scène ou une manière de trouver le genre en rue. C'est aussi une manière de faire communauté, de prendre soin les uns des autres, une manière de militer en soignant son corps et ses rêves.
Pour moi, c'est vraiment du soin communautaire. Et donc là, moi, j'adore une drague et non-binaire de Lausanne qui fait justement un travail dans le cadre d'un diplôme en soins infirmiers sur justement l'apport du drague dans le soin. Et pour moi, ça a toujours été du soin communautaire. Et parce qu'effectivement, on prend soin de... nos corps, nos histoires, nos relations et aussi nos intentions, nos rêves. Et puis aussi des personnes d'autres générations. Moi, j'ai pu voir, en France, on a des projets d'habitat participatif de personnes âgées LGBT et qui ont créé à Lyon leur propre famille de drag, et notamment de drag king. Et donc, de voir une femme lesbienne de plus de 65 ans, 70 ans, performer sur scène un drag king, ben moi, j'aurais jamais imaginé, rêvé de ça il y a 20 ans. Et je trouve ça magique, un beau cadeau de la vie. Et donc, je ne sais pas si à 70 ans, je continuerai de faire du drag king, mais en tout cas, l'énergie drag king sera toujours en moi. C'est ça aussi qui est fort. Et je souhaite à toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur identité de genre et leur orientation sexuelle, de pouvoir aller justement créer, s'amuser et être dans la joie et de la partager.
Isabelle Diego a répondu cet art qui le fascine. Maintenant qu'il a partagé la liberté qu'il voulait offrir aux autres, que souhaite-t-il pour la nouvelle génération de King?
Leur souhaiter beaucoup de joie, leur souhaiter aussi une attention et une bienveillance à elles-mêmes, à elles-mêmes, à eux-mêmes, et aussi aux autres. De pouvoir le vivre collectivement. Parce qu'effectivement, ce que je peux percevoir par ce qui déforme, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui déforment les réalités ou qui nous les amplifient ou qui les partagent aussi, hein, c'est que parfois c'est des pratiques assez individuelles et tant mieux, parce que c'est, j'ai aucun jugement sur ces et leurs pratiques, mais je leur souhaite de pouvoir les partager collectivement et dans un esprit de solidarité, d'entraide et ça vraiment c'est ce que je leur souhaite, vraiment de pouvoir être ensemble et aussi de prendre soin à des biais notamment du validisme qui traverse toute notre société. Alors je le dis aujourd'hui parce que je suis une personne à motricité réduite, maintenant je suis une personne handicapée et donc je performe différemment, pas avec la même énergie, pas forcément avec la même énergie en soirée par exemple, parce que j'ai toute la journée, j'ai toute la semaine de douleurs chroniques, de fatigabilité et donc voilà, je peux pas performer à 2h du matin en clubbing, bon ça je peux plus, mais peut-être effectivement cette attention à peut-être accueillir ou prendre soin d'autres qui ne peuvent pas forcément performer de la même façon que elles et eux. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose, une vigilance, une attention, parce que même si aujourd'hui je performe une validité que je n'ai plus, bah, ça me coûte énormément et je nous souhaite ne pas performer ces validités qui ne sont qu'éphémères malheureusement. Donc vraiment, je nous souhaite d'être dans la joie et dans l'énergie du King, quelle que soit voilà notre situation de santé. Et pour moi, je pense que c'est dans cette envie d'être ensemble, il y a cet enjeu justement de prendre attention aux difficultés que d'autres peuvent vivre et qui fait que ben voilà, venir sur scène ou venir en rue ou venir dans un atelier, eh ben ça peut être difficile. Donc être conscient de tout ce qui se joue pour permettre ces rencontres, qu'elles soient très belles. Je leur souhaite de très très belles rencontres et de très beaux partages.
Allez, ciao, bisous.
La vieille garde.
Un machin audio
de François Clément,
Estelle Panatier
et toute l'équipe technique et subsistance.